Il vient d'être à 18h, passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. À la présentation, Nafis Adamou Sirfo. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Et sachez que vous pouvez nous suivre dans tout le Niger à travers un réseau dynamique de 34 radios partenaires. La gestion des inondations à Niamey, mesures de prévention et dispositifs existants pour les secours, c'est la thématique du forum de ce soir. Qu'est-ce qu'on entend par inondation? À quelle période les inondations surviennent au Niger? Quelles sont les typologies d'inondations? Quel type d'inondation la ville de Niamey enregistre le plus souvent et quels sont les endroits de la capitale généralement touchés? À quand remontent les dernières inondations de la ville de Niamey et quelles étaient les conséquences recensées? Quelle est la situation actuelle avec la saison de pluie qui s'installe? Quelles sont les mesures adéquates pour prévenir, voire empêcher la survenue d'inondations de la ville? Pourquoi les mêmes inondations proviennent aux mêmes endroits? N'y a-t-il pas de solution? Ce sont à toutes ces interrogations et à bien d'autres que nous tenterons de trouver des réponses avec nos invités présents ici dans ce studio. Nous avons le plaisir de recevoir M. Issaka Hassan Karanta, le gouverneur de la région de Niamey. Bonsoir M. le gouverneur.
Bonsoir.
Nous recevons également le colonel-major Bako, directeur de la protection civile. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Dr Nassirou. Il est directeur des relations publiques au ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Chers invités, merci une fois de plus de nous avoir honorés de votre présence dans ce studio. Les inondations, on entend toujours parler puisque ce sont des phénomènes qu'on enregistre très souvent dans nos villes. Mais quand est-ce qu'on parle réellement d'inondations et quels sont les types d'inondations qu'on enregistre? Réponse dans cette interview que nous a accordée M. Moumounika Djoboubakar. Il est prévisionniste à la Direction nationale de la météorologie de Niamey. On l'écoute.
D'un point de vue météorologique, les inondations, c'est-à-dire c'est un phénomène qui est causé par plusieurs facteurs. Donc l'un des facteurs majeurs, c'est également la précipitation, donc la pluie. Donc on parle d'inondation lorsque les hauteurs de pluie atteignent un certain niveau qui peut créer un certain nombre de dégâts sur les différentes infrastructures ou bien les différentes installations qui rentrent dans les activités humaines, donc les habitations, les marchés et autres, etc. Donc, il y a les facteurs pédologiques, les facteurs de surface. Donc, lorsque la pluie arrive et qu'elle trouve un certain nombre de conditions au niveau du sol, donc cela favorise l'inondation en empêchant l'eau de s'infiltrer ou bien de ruisseler. Il y a aussi des facteurs qui sont liés à tout ce qui est environnemental. On a des inondations qui sont brusques. C'est-à-dire que vous avez une zone où vous avez, par exemple, 200 mm d'un seul coup, en moins d'une heure ou bien de 30 minutes. Et donc, le sol n'a plus la capacité ou bien le temps d'évacuer ou bien d'infiltrer l'eau. Et donc, ça crée une inondation brusque. Vous avez aussi des inondations où c'est une accumulation d'eau qui se fait suite à des pluies qui sont intermittentes, c'est-à-dire que des pluies qui arrivent sur une zone et qui va durer par exemple plus de 2 heures ou bien 3 heures ou bien 5 heures, avec des quantités de pluie qui ne sont pas négligeables. Et lorsqu'on fait des prévisions journalières ou bien quotidiennes, on essaie également d'anticiper sur les phénomènes extrêmes. On les appelle des phénomènes extrêmes parce que ce sont eux qui sont les plus dangereux et qui sont porteurs de vraiment beaucoup de pluie. Donc 6 heures à l'avant, 24 heures à l'avant, souvent même jusqu'à 48 heures à l'avant, on peut prévoir un phénomène météorologique extrême de pluie qui peut arriver sur une certaine zone avec quand même une certaine fiabilité.
Et la ville de Niamey, quelle est la situation? Quels sont les types d'inondations que la ville enregistre le plus souvent?
Le plus souvent, moi, à ma connaissance, donc ce sont des inondations qui sont souvent liées et à l'arrivée de pluies fortes, donc comme ce qu'on avait enregistré l'année dernière avec une centaine de millimètres en une journée et en moins de 2 heures ou 3 heures. Et comme je vous l'ai dit, ces inondations-là, l'effet de ces pluies-là sont amplifiés par les conditions en surface.
Les Nations Unies ont alerté qu'il y a une menace d'inondation cette année dans les régions de Niamey et Tillaberi. Qu'en est-il de la situation exacte?
Lorsqu'on avait fait les prévisions saisonnières, donc on avait prévu que l'année 2018 donc serait similaire à l'année 2012. On sait bien ce qui s'est passé en 2012 en termes de précipitations. On a dit également que cette année serait une année qui sera humide. Donc la période de juillet, août et septembre qui est connue pour être la période où on enregistre beaucoup de pluie, on a dit que cette période-là serait excédentaire, anormale. C'est-à-dire qu'on va enregistrer des quantités de pluie qui seraient supérieures à ce qu'on a l'habitude d'observer. Et dans certaines zones également, elle va être normale. Donc quant à ce que OCHA ou bien, je sais pas, l'ONU a évoqué, donc c'est quand même le résultat de la prévision qu'on avait effectuée. Donc on donne une appréciation de la saison en termes de précipitation, mais on ne dit pas voilà tel endroit ça va être inondé, tel endroit ça va être inondé. Mais quand même il y a des chances, les chances sont là et elles sont de 30 à 45% pour les régions du fleuve, l'Ader et également la région de Maradi. Pour être plus prudent et pour bien utiliser ces informations là, il faut les accompagner avec les prévisions quotidiennes. C'est ce que nous faisons ici à la direction de la météorologie en faisant des bulletins de vigilance. Donc 3 jours avant, lorsqu'on identifie un phénomène qui potentiellement peut arriver sur une zone et créer des dégâts, on fait un bulletin de vigilance de 72 heures qu'on envoie, qu'on diffuse par nos canaux, donc également aux autorités, pour qu'ils puissent commencer à envisager des procédures pour pouvoir agir par rapport à ça. Et 2 jours avant, lorsqu'on confirme que le phénomène va bien arriver, avec vraiment tout ce qu'on a vu comme étant quantité de pluie qu'il peut donner, en ce moment, on envoie une alerte pour dire que voilà, attention, sous ces zones-là, voilà ce qu'on peut attendre. Et en termes de risque, quel est le risque qu'on peut avoir en termes de forte pluie? Est-ce que ça peut créer des inondations? Est-ce que ça ne va pas créer des inondations? Est-ce que ça va juste être des pluies qui seront diluviennes et autres, etc.?
Chers invités, vous venez d'entendre l'intervention de ce prévisionniste sur les explications sur les inondations qu'on enregistre le plus souvent dans nos villes. Et comme annoncé, notre troisième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Dr Nassirou. Il est directeur des relations publiques au ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, madame.
Et merci d'être venu. Depuis 2012, la ville de Niamey enregistre des inondations avec des conséquences énormes. Comment se présente la situation actuelle?
Et d'abord, je vous remercie et au nom du ministre de l'Action humanitaire et la gestion des catastrophes et pour nous donner cette occasion de présenter effectivement la situation des inondations, d'abord d'une manière générale au Niger, mais spécifiquement au niveau de la ville de Niamey. Et cette situation, globalement, comme la personne de la météo vient de le dire, au fait, la prévision nous donne une estimation avec la cartographie des zones à risque, et pratiquement 170 000 personnes qui seront menacées cette année par ces inondations sur le plan national. Et donc, du coup, vous voyez bien, et aussi bien pour l'année 2017 où on a géré pratiquement ces risques d'inondation avec beaucoup de morts. Donc cette année aussi, la situation se présente presque identiquement ou beaucoup plus grave encore. Donc voilà un peu.
Monsieur le gouverneur, après toutes ces interventions, on le sait, chaque année, Niamey fait face à des inondations. Est-ce que des dispositions ont été déjà prises pour identifier les zones inondables?
Affirmatif. Dès le mois de mai, nous avons mis en place un comité ad hoc constitué des différents services techniques qui interviennent sur le terrain, à savoir la protection civile, l'équipement, l'urbanisme et tant d'autres. Donc ce comité a planché d'abord pour identifier toutes les zones inondables dans la région de Niamey, de la commune 5 à la commune 4, commune 3, commune 2 et commune 1. Et nous avons fait un programme, tantôt de curage des caniveaux, tantôt de rechargement de certaines voies et de certaines excavations ou de reprofilage. Et pour être clair, les 25, 26 et 27 juin passés, nous nous sommes portés sur le terrain parce que les militaires disent que c'est le terrain qui commande. Et nous avons constaté de visu ce qui a été fait et ce qui reste à réaliser. Ainsi, il nous a été donné de visiter les quartiers Bangabana, les quartiers Kirkasoy, Lamordé et Courtéré à la commune 5. Puis, nous nous sommes transportés à Losogungu, Soudouré, Tondibia, Tondikouaré pour la commune 1, plus Kouarkane Nord, école Barikalézé. Et nous avons poursuivi notre mission au niveau de du 4e arrondissement communal par Bassora et Saga. Alors, nous avons constaté qu'il y a des digues qui ont été réalisées à grands frais sur 11 km avec 4 km d'épaisseur. Et c'est des digues, ma foi, confortées et avec des claviers de passage des eaux. Et nous avons également identifié certaines poches dans les communes 2 et 3. Alors, cela est fonction d'abord de la nature même des terrains de Niamey. Et deuxièmement, des constructions anarchiques. Parce qu'à Niamey, vous n'êtes pas sans savoir que les gens construisent sans autorisation. Et le plus souvent, ce n'est qu'après coup, c'est-à-dire après avoir construit, qu'ils pensent chercher un titre foncier. Et c'est ça qui va les amener à chercher une autorisation de construire. Donc le mal est déjà fait. Le plus souvent, ils construisent sur les voies de passage des eaux. Et sans anticiper, les caniveaux ou les collecteurs ou les dalots, il n'y en a pas un nombre suffisant d'Niamey.
Monsieur le gouverneur, à travers cette étude menée dans ces différentes communes, quelles sont donc les zones les plus exposées cette année?
Les zones les plus exposées, ce sont les communes 5 et la commune 4. C'est-à-dire la zone de Bangabana, de Kirkasoy, de Lamordé, de Courtéré et Bassora et Saga. Voilà les zones que nous considérons à haut risque, plus Kouarkane Nord et l'école Barikalézé.
Et voilà. Vous pensez que cela est dû aux constructions anarchiques dont vous avez parlé tout de suite?
D'accord, il y a les constructions anarchiques que j'incrimine, parce que beaucoup de gens ont construit sur les voies de passage des eaux. Et quand il y a une pluie, même si c'est 5 mm, non seulement les eaux ne s'infiltrent pas, mais elles n'arrivent pas à ruisseler pour rejoindre leur cours normal.
Mais si on comprend bien, toutes ces communes-là sont les communes qui enregistrent d'habitude ces inondations chaque année. Mais pourquoi ces zones vulnérables sont toujours habitées?
Ces zones vulnérables sont habitées parce que, il faut le reconnaître, nos gens sont ce qu'ils sont. Ils sont têtus. Parce que depuis déjà 1997, quand il y a eu la plus forte pluviométrie dans Niamey, en son temps, le feu général Baré, Ibrahim Baré Menassara, a tenté de faire déménager le quartier de Bangabana pour les amener loin, dans une zone sablonneuse. Les gens n'ont pas voulu.
Monsieur le gouverneur, nous allons revenir vers vous, d'accord, le temps de donner la parole à colonel Bako. Selon vous, quelles sont les vraies causes de ces inondations de la ville de Niamey?
Merci beaucoup, madame. Et moi, j'ai une approche beaucoup plus opérationnelle de la question. Et pour être terre à terre, et l'inondation, c'est une submersion des eaux d'une zone habituellement hors de l'eau. C'est-à-dire que si quelque chose est habituellement hors de l'eau et qu'elle est subitement envahie par l'eau, c'est une inondation. Mm-hmm. D'accord? Ça peut être dû à des crues, ça peut être dû à des pluies intenses, mm-hmm, ou ça peut être dû à une remontée des nappes phréatiques. Donc voilà quelle approche il faut avoir. Maintenant, en matière de causes, il y a ce qu'on appelle l'enjeu. Un enjeu, c'est quelque chose qui est envahi par l'eau.
Oui.
S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'inondation. Il peut pleuvoir dans le désert, il n'y a rien qui est impacté, il n'y a pas d'inondation. Alors, la cause des inondations, c'est que vous avez mis quelque chose dans un endroit inondable. Un enjeu.
Oui.
Les enjeux, ça peut être les habitats, ça peut être les autres types de biens, tout ce que vous pouvez imaginer, même les cultures et autres. Pour empêcher les inondations, il faut éviter de mettre les biens dans les zones et les enjeux dans les zones inondables. Ça, c'est la première approche. Si on n'a pas le choix, on n'a pas d'espace, on crée les conditions pour que
l'arrivée de cette eau-là ne vienne pas impacter ces biens-là, soit par des dispositions constructives qui mettent à l'abri l'infrastructure, soit par, si vous voulez, des ouvrages de protection. Donc voilà ce qu'on peut les choses. Maintenant, les inondations sont exaspérées par un certain nombre de choses. Même en ville, tout ce qui est chaussé, bitumé, empêche l'infiltration. C'est ce que le monsieur venait d'expliquer tout à l'heure.
Oui.
Donc toutes les routes là que vous voyez, c'est des espaces en moins pour l'infiltration des eaux. Les parkings, les toitures et tout ça. Et enfin, l'eau qui va donc ruisseler par ces espaces-là, il faut bien qu'il tombe quelque part dans des collecteurs qui vont l'amener ailleurs, là où on veut. Et si on réussit à faire ça, on a des aménagements qui sont de nature à réduire les choses.
Mm-hmm.
Donc voilà, moi, en première approche, en termes de causes, ce que je peux vous dire.
Alors, docteur, oui, vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, et en fait, c'est dans le cadre de ces questions préventives par rapport aux inondations, et le gouverneur l'a rappelé, il y a d'abord des préventions lourdes, que moi j'appelle lourdes, c'est tout ce qui est la construction, par exemple, des digues, l'interdiction de construction dans des zones inondables. Mais à côté aussi, il y a des préventions communicationnelles. Et peut-être nous allons
concrètement
dans le sens d'informer la population pour que les risques ne l'atteignent pas.
Oui.
Et donc, et à côté aussi de ces préventions communicationnelles, il y a une autre prévention vraiment législative et réglementaire qui rejoignent la prévention lourde.
Mm-hmm.
Il faut des textes. Le gouverneur l'a dit, on a déguerpi des gens, ils sont revenus. Il faut quand même qu'il y ait des textes. Et ces textes-là puissent être appliqués.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est le début de la gestion durable des inondations, la prévention lourde. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais sinon, en tout cas cette année, c'est pratiquement plus de 44 000 personnes qui sont concernées pour la ville de Niamey.
Et selon vous, quels peuvent être les risques, le degré de risque cette année de ces inondations?
Oui, et évidemment, comme la direction de la météorologie nationale l'a relevé, en réalité, en tenant compte de ces prévisions au niveau national et avec tous les partenaires, il y a eu la validation de la carte des zones inondables. Et cette carte, effectivement, c'est une carte à risque des zones inondables. Et le risque est grand dans la mesure où ces gens-là qui étaient inondés en 97, je pense, le gouverneur l'a dit, en 2012 également, l'année passée. Donc, ils sont encore là. Ça veut dire que s'ils viennent, sans compter, quand on lit avec notre croix démographique, chaque fois, c'est encore des nouveaux besoins et des nouvelles installations qui sont là.
Mm-hmm.
Du coup, les risques vont à s'agrandir.
Mm-hmm. Avant de continuer, je vous propose d'écouter une autre interview d'un urbaniste, à savoir si l'urbanisation croissante de la ville de Niamey serait-elle à la base des inondations. Écoutons donc M. Tini Younoussa, il est urbaniste architecte.
L'urbanisation en tant que telle peut être l'une des causes, mais pas forcément, parce que si l'urbanisation a été faite selon les règles d'urbanisation, je ne pense pas si il peut y avoir d'inondations en pleine ville. Non. L'urbanisation, c'est quoi? Ça consiste à agrandir la ville. C'est le processus d'agrandissement de la ville. C'est ça l'urbanisation. L'occupation des espaces libres par des habitations. C'est ça l'urbanisation. Donc, ce n'est pas parce que la ville s'agrandit qu'il va y avoir inondation. Non. C'est parce que cette urbanisation, parfois, n'est pas bien faite. C'est quoi n'est pas bien fait? C'est-à-dire, les mesures d'accompagnement ne suivent pas. Voilà. C'est-à-dire...
Oui, c'est mesures d'accompagnement, comme quoi?
Voilà. C'est-à-dire la viabilisation. Parce que avant de s'installer, avant d'aménager un terrain, s'installer, faire des lotissements, il faut d'abord viabiliser. La viabilisation consiste à d'abord à planir le terrain, à faire ressortir la voirie et aménager cette voirie. Si c'est des voies primaires, il faut les faire en bitume. Les voies secondaires, il faut les faire en latérite. Les voies tertiaires, il faut les traiter, même si c'est la terre. Et faire des caniveaux, surtout, et accompagner avec l'eau et l'électricité. C'est ça la viabilisation. Et vous êtes d'accord avec moi que tous les nouveaux lotissements que nous constatons un peu partout à la périphérie de Niamey n'ont pas été objets de cette viabilisation. Donc, si le terrain a été juste loti comme ça, à l'état naturel, et bien sûr qu'il y a les anciens mares qu'on trouve dans les champs, qui vont rester, même si l'espace est urbanisé, les espaces qui gardent l'eau là, les plaques d'eau là, vont toujours rester et demeurer. Et on n'a pas aménagé pour que ces plaques d'eau là puissent trouver où passer pour aller trouver l'exécutoire final. Malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, c'est en quelque sorte ça qui est la cause de l'inondation. Et il y a aussi l'autre facteur qui est l'ancien schéma d'assainissement de la ville, qui a été fait depuis 1984, qui malheureusement est dépassé. De nos jours, il est dépassé. C'est-à-dire les anciens caniveaux et collecteurs qu'on avait fait depuis que la ville n'était pas aussi grande que ça. Aujourd'hui, cet assainissement est dépassé. Il n'y a pas eu de nouvelles études mises en application pour accompagner l'ancien schéma. La ville s'est multipliée, ça s'est agrandi de cette façon exponentielle qu'on ne pourra même pas l'expliquer. Et donc, le schéma là est dépassé. Quand il pleut, vous prenez toutes les eaux de la périphérie, cherche les exécutoires finaux, c'est-à-dire les corries de Guntiena ou bien le fleuve. Et mais pour drainer toutes ces eaux pour aller là-bas, les caniveaux existants qui étaient là, c'est du sable que ça va drainer en amont pour venir remplir ces caniveaux et maintenant, l'eau se disperse dans la ville.
Oui, monsieur Tini, donc, pour finir, qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour vraiment limiter les dégâts liés aux inondations de la ville de Niamey et dans nos villes même en tant que
ville? Ok, c'est à deux niveaux. Dans un premier temps, pour des solutions provisoires, on peut essayer, la mairie peut essayer de mettre ses bulldozers partout où les pentes ne sont pas bien sorties, de les faire sortir. Dans tous les quartiers de la ville de Niamey, là où il y a des crevasses, essayer de les remplir, vraiment traiter toute la voirie, ça c'est provisoire. Faire sortir les pentes pour que quand il pleut, les eaux puissent vraiment couler à la surface de la voirie et aller chercher le drain naturel qui est le Guntiena et le fleuve. Ça c'est la solution provisoire. Maintenant, pour une solution provisoire, c'est de faire des études global pour l'ensemble de la ville de Niamey, des études d'assainissement. Et après les études, là, une fois qu'elles seront faites, essayer d'appliquer, d'exécuter les études.
Monsieur le gouverneur, selon l'urbaniste Younoussa Tini, le schéma d'assainissement de la ville de Niamey qui n'est pas actualisé est l'une des causes des inondations de la ville de Niamey. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela?
Il a tout à fait raison, cet urbaniste, parce que le schéma d'assainissement de la ville de Niamey date de 1984.
Oui.
Et il faut reconnaître aujourd'hui que Niamey s'est agrandi de manière exponentielle. Et comme je le disais tantôt, les gens ont construit de manière anarchique. Et cela est surtout fonction des lotisseurs privés qui sont venus s'accaparer des terrains et qui ne viabilisent pas avant la mise en vente des terrains. Or, il y a un problème qu'il faut reconnaître. Vous avez beau louer chez quelqu'un pendant 40 ans, 50 ans, pour une fois que vous avez raté un mois ou deux mois, on vous vide. Et c'est ce qui fait que dès que le gars a une parcelle, même si c'est dans un trou, il est prêt à aller construire sa petite suite là-dedans. Et malheureusement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils n'attendent pas d'autorisation de construire, si bien qu'ils n'orientent pas leur maison, ils n'évitent pas les passages des eaux. Et cette construction anarchique, effectivement, renforce les problèmes d'inondation. Donc, comme le schéma d'assainissement n'a pas été encore
actualisé,
les quelques kilomètres de caniveaux ou de collecteurs ou de dalots dont nous disposons sont également bouchés par un ensablement systématique et des obstructions volontaires des populations qui y jettent tantôt des vieux pneumatiques, tantôt des matelas, tantôt des seaux, hein, et même des morceaux de véhicules, et même des constructions sur les caniveaux. Alors tout ça, ma voix, ça n'aide pas à éviter les inondations.
Outre les zones inondables, est-ce que vous avez pensé aux autres quartiers avec les infrastructures d'assainissement?
Nous avons fait le tour de l'ensemble de la ville de Niamey. Nous n'avons pas seulement et retenu les zones critiques d'inondation. Nous nous sommes intéressés à l'ensemble de la ville de Niamey parce que nous savons que Niamey connaît de manière périodique des inondations et surtout que cette année, nous avons été alertés par les agrométéorologistes, par OCHA, par RFI, etc. etc. Et tout comme le docteur Nassour l'a dit, nous nous attendons cette année à de fortes précipitations qui risquent d'entraîner des inondations à conséquences vraiment lourdes.
Et tous les moyens sont mis en place.
Effectivement, nous avons d'abord identifié des centres d'accueil et de recasement des personnes éventuellement vulnérables, tout comme nous avons, avec le concours de la Direction nationale de la protection civile et du ministère en charge des catastrophes, nous sommes en rapport pour identifier et planifier, n'est-ce pas, des mesures d'urgence pour faire face à la situation des inondations. Et maintenant, le ministère est en train de s'employer à faire même, je peux le préciser, je parle sous le contrôle du docteur Nassirou, un plan triennal, n'est-ce pas, d'intervention sur l'ensemble du territoire national pour qu'il y ait vraiment des équipements adéquats et pour qu'on puisse intervenir à temps réel. Tout comme la Direction nationale de la protection civile est à pied d'œuvre
pour les
secours d'urgence.
Voilà. Donc, merci, monsieur le gouverneur. Colonel Bakou, votre rôle, le rôle de la protection civile, des sapeurs-pompiers et d'apporter du secours, comment cela se passe concrètement en cas d'inondation?
Alors, il faut comprendre que la protection civile, d'abord, ce n'est pas uniquement nous, ce n'est pas uniquement les sapeurs-pompiers. Et beaucoup d'acteurs font de la protection civile. Et lorsqu'on prend la protection civile dans le sens global du terme, en matière de prévention, il faut retenir que le gouvernement s'est doté d'une loi déterminant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain en avril 2017. Cette loi interdit dans un de ses articles la construction de les zones inondables. Il y a le décret d'application de cette loi qui concerne le permis de construire, qui interdit aussi la délivrance du permis de construire dans ces zones-là. Donc, de ce point de vue-là, comme les autres intervenants l'ont si bien dit, retenons que c'est d'appliquer les textes. Ce n'est pas les seuls. Il y a aussi la sensibilisation. Et de la même manière que nous sensibilisons nos enfants dans nos familles, de cette même manière, les autorités ne se découragent pas. Les autorités municipales, les autorités, que ce soit au niveau des départements, au niveau des gouvernorats, et ne se fatigue pas de sensibiliser la population, d'éduquer la population. En termes de moyens, en termes de capacités, il y a des cadres donc légaux, des cadres réglementaires qui créent par exemple pour tous les gouvernorats ce qu'on appelle le plan ORSEC, le plan d'organisation des secours. C'est l'outil du gouverneur pour juguler toute situation et de catastrophe dans le territoire de sa région. Donc, la région de Niamey va bientôt mettre en place, par arrêté du gouverneur, son plan ORSEC. Mais le décret est là, il définit les différentes responsabilités. Comment s'organisent les secours dans le cadre de la région? Comment s'organisent les secours dans le cadre du département? Donc, ça, c'est concernant le plan ORSEC départemental. Et le plan communal de sauvegarde qui lui consiste à une commune de prendre ses ressources en ayant imaginé toutes les situations de catastrophe plausible dans le territoire de la commune, prendre ses ressources pour gérer cette catastrophe-là. Au cas où ça échappe au maire, et le préfet prend en charge. Si ça échappe au préfet, le gouverneur prend en charge. Je vous donne toute la batterie des choses institutionnelles. Parce que nous sommes un des maillons. Nous ne sommes pas les seuls. C'est vrai que nous assurons la protection civile de façon permanente. Mais le ministère de l'Action humanitaire est là. Voilà. Alors, nous disposons des unités de sapeurs-pompiers. Et à Niamey, aujourd'hui, vous avez, avec le renforcement, la mise en service de 5 casernes de sapeurs-pompiers dans la région de Niamey. Il y a d'autres casernes. Nous avons pour mission aussi d'évaluer les catastrophes. Alors, dans le cas de l'évaluation des catastrophes, nous avons le renforcement des capacités en ressources humaines, c'est-à-dire que recrutement des ressources humaines et les former, qu'elles soient aptes à faire le travail. Nous avons aussi des outils d'intervention. Aujourd'hui, la protection civile nigérienne est équipée de drones qui nous permettent de faire l'imagerie des inondations à moindre frais sur la ville de Niamey, par exemple. Nous en avons fait pour 2017.
C'est une avancée.
Ce sont ces images-là que nous avons rendues à la ville de Niamey. Et la ville de Niamey a travaillé de concert avec le gouvernorat pour aller voir les sites qui ont été inondés l'année dernière. Et cette année, et nous allons utiliser ces outils-là pour faire des évaluations beaucoup plus rapides. Le dispositif est interministériel avec la supervision du ministère de l'Action humanitaire pour que... toujours la question des moyens. Et je vous ai déjà dit que le groupement national de sapeurs-pompiers est un outil mis à la disposition du ministère de l'Intérieur par le ministère de la Défense nationale. Donc, dans le cadre du travail interministériel, nous avons développé les cellules départementales d'évaluation des catastrophes. Je ne ferai pas le scoop de vous de la situation des inondations au Niger cette année, mais les inondations sont déjà là.
Oui. Elles sont déjà la saison des pluies est déjà installée.
Voilà.
Merci à vous. Docteur Nassirou, comme l'a expliqué M. le gouverneur, pour limiter, voire circonscrire les catastrophes lors des inondations, des plans de riposte ou bien des plans de riposte urgents sont établis par les autorités en charge de la question. Qu'est-ce qui est en train d'être fait à votre niveau, du ministère de la gestion des catastrophes?
Oui, merci madame. En fait, au niveau globalement de l'action humanitaire, la gestion des catastrophes, dont le colonel-major l'a rappelé que la protection civile, effectivement, c'est large. En fait, à ce niveau, d'abord, ce qui est en train d'être fait, il y a l'enclenchement de la semaine passée, de la cellule de gestion des crises des inondations au niveau national, qui regroupe donc tous ces acteurs, dont le colonel-major, je pense, est vice-président de cette cellule, sous la présence du ministère de l'Action humanitaire. Et cette cellule, à l'image de la cellule que le gouverneur l'a relevée au niveau de Niamey, c'est une cellule au niveau national, qui regroupe vraiment toutes les institutions, et pour faire les points, et en cas de crise, cette cellule se réunit chaque jour. Mais au-delà de cette crise, en janvier 2018, il y a eu un atelier régional, un régional, je pense, du niveau des pays de la sous-région, sur la gestion des inondations. Et à l'issue de cet atelier, il y a eu effectivement un plan d'action. Mais en plus de cela, chaque année, l'État développe ce qu'on appelle le plan de soutien. En réalité, le plan de soutien, c'est pour tous les risques. Mais à l'intérieur, il y a les inondations. Les inondations, à elles seules, je pense, vont dans les 2 milliards et quelques, sur les 181 milliards. Mais c'est pour revenir à cet impact même de ces questions des inondations. Vous voyez bien que dans les ressources qu'on a, pratiquement 181 milliards vont aux questions de gestion des risques et catastrophes. C'est énorme. Donc, du coup, si on prévoit ces questions des risques, cette somme peut être redéployer quelque part dans les développements. Donc, c'est pour dire, au niveau du ministère, en tout cas, en termes de préparation sur le plan planification stratégique et opérationnelle, déjà les éléments sont là. Maintenant, sur le plan opérationnel, pour la ville de Niamey, le gouverneur l'a relevé. Déjà, il y a des sites, au fait. Il y a, par exemple, le site de l'armée au niveau de Harobanda, qui est identifié comme un site pour reloger en cas de cas, mais aussi il y a le site de Saga qui lui n'est pas encore un site formel, mais quand même on reloge. Maintenant, à côté de tout ça, on fait des préventions un peu légères, c'est-à-dire l'information pour qu'au cas où les risques arrivent, quelles vont être les réactions,
les mesures à prendre également.
Effectivement, donc là, dans le cadre des appuis de nos partenaires et ensemble avec les acteurs clés, notamment les MAH, la DGPC, la DMN, et la Direction générale de gestion et les systèmes d'alerte précoce, nous sommes sur une dynamique de faire en sorte qu'il y ait l'information à temps au niveau des populations pour que quand les risques, avant qu'ils n'arrivent, qu'ils puissent prendre des dispositions pour soit évacuer les lieux à temps. Et effectivement, en termes de partenariat, il y a d'abord ce qu'on appelle les partenaires humanitaires, qui, donc, autour de l'action humanitaire, il y a tout ce que les agences des systèmes des Nations Unies, notamment OCHA, l'UNICEF, l'OIM et les PAM. Et donc, à côté des systèmes des Nations Unies, il y a aussi les autres partenaires, c'est notamment la Banque mondiale à travers les PGCDRU, les projets CRUS, dont j'ai parlé, Climate Early Response Warming. Et il y a aussi des organisations non gouvernementales. C'est notamment, par exemple, l'année passée, dans le cadre de la ville de Niamey, on a eu des appuis du CRS, de World Vision, de Fondation Goury et de la GIZ. Mais en plus des systèmes des Nations Unies dont j'ai cité tantôt. Donc, grosso modo, vraiment, on a une, assez de partenaires autour de cette question.
Merci à vous, monsieur le gouverneur. Plus haut, vous avez un peu parlé des digues qui sont construites un peu partout dans les communes pour faire face à de probables montées d'eau pour limiter les dégâts. Ces digues... Est-ce à dire que Niamey est à l'abri des inondations avec ces digues?
Bon, je ne dis pas que Niamey est à l'abri totalement de ces inondations, mais Niamey sera épargné par les crues du fleuve. Parce que quand vous avez une digue de 11 km avec une épaisseur de 4 mètres, ou vous avez une digue de 6 km, hein, partant de Saga à Kirkesoy, de Kirkesoy, l'amorder. Donc, je crois que au moins, ça peut prévenir, ça peut adoucir, n'est-ce pas, les inondations fluviales. Donc, Niamey ne sera pas totalement à l'abri, mais ça peut amoindrir les conséquences au niveau des riverains du fleuve.
Aussi, parlons des sites aménagés pour reloger les sinistrés, les probables sinistrés. D'habitude, on constate que ces sinistrés sont relogés dans les écoles. Une décision des autorités ou bien...
C'est une tradition qui était là. Faute de moyens, on fait la politique de ces moyens. Mais depuis un certain temps, de concert avec la Direction nationale de la protection civile et du ministère de l'action humanitaire, nous sommes en train de réfléchir, comme le docteur Nassir l'a dit tout à l'heure, il y a un site qui est aménagé à la rive droite, hein, il y a un site qui sera très bientôt également aménagé vers Saga, parce que nous cherchons à réduire la présence des sinistrés dans les établissements scolaires, c'est-à-dire dans les écoles. En ce sens que nous avons constaté qu'ils dégradent ces établissements et que le plus souvent, jusqu'à la rentrée scolaire, ils y sont. Et pour les déloger, ça va prendre encore du temps. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de chercher à fixer le maximum de tentes, hein, pour les accueillir sur d'autres terrains plutôt que dans les établissements scolaires.
Et donc vous avez déjà pensé à empêcher à ces gens-là?
De toutes les façons, à partir de la semaine prochaine, nous allons procéder d'abord à la sensibilisation, à l'information et à la formation des populations, surtout riveraines, hein, et des populations des zones à haut risque. Nous allons les sensibiliser et au cours de cette opération de sensibilisation, nous ne manquerons pas de leur dire que cette année, voilà les dispositions pratiques que nous comptons prendre pour éviter en tout cas que les écoles ne fassent l'objet... Hein,
d'habitation. Et ces sites-là, bon, qui sont ciblés, ils ont été bien aménagés, tout est mis en place,
Ces sites le seront parce que je vous ai dit que dans notre comité ad hoc, non seulement il y a la protection civile, il y a l'action humanitaire, il y a les services de santé, hein, et tout le monde. Il y a l'équipement, il y a, tous les services techniques.
Ok, merci à vous, colonel Bako. Que faire réellement pour circonscrire les catastrophes liées aux inondations dans nos villes?
Déjà, on a parlé des mesures de prévention. On a parlé de la sensibilisation. Il faut faire une bonne planification. Et il faut respecter aussi les zones inondables. Il ne faut pas donc construire dans ces zones-là. Et il ne faut pas aussi que les autorités qui prennent des mesures énergiques soient traitées comme des gens qui n'aiment pas la population. Au contraire. Et il y a des choix à faire entre vous laisser à vous-même et que c'est des corps qu'on va prendre, ou en fait les autorités font tout pour protéger les populations contre elles-mêmes, parce que les populations ont des agissements qui ne vont pas dans leur propre intérêt. Et tout à l'heure vous avez évoqué la question des digues et le gouverneur vous a bien expliqué pourquoi il n'a pas dit que ça y aura pas des, il aurait pu le dire, mais regardez toute la zone des Qatar. Toute la zone de l'autre côté, Bédir et tout ça. Là.
C'est une zone également qui est...
Non, c'est le passage d'eau qui a été bloqué. Donc, pour nous, ces jeunes-là, il faut les décourager. Et sur le terrain, c'est de faire des balisages. Quand vous venez dans un colis tel que Guntuyena, limite droite, limite gauche. Entre les deux limites, c'est la zone à risque. On n'a pas à s'y mettre dedans. Maintenant, si vous construisez entre les deux,
soit on démolit ou on crée des situations pour vous décourager. Décourager même les locataires. Si on dit limite gauche, limite droite, quand vous êtes dedans, votre maison ne vaut rien, mais personne ne va la louer. Malheureusement, nous avons des gens qui ont construit des immeubles R+3, R+4, dans ces limites-là, et qui gardent leur véhicule à 300 mètres ou bien à 400 mètres, des 4x4 qui ne peuvent pas les amener chez eux.
Merci à vous. Docteur Nassourou, pour finir, selon vous, à quand une saison de pluie sans inondation ici à Niamey?
Bon, là, ça va être trop... Au fait, c'est une question qui va être très difficile à répondre dans la mesure où il faut beaucoup des analyses sur la question de modélisation pour répondre à cette question. Mais ce dont je suis sûr, pour arriver à une saison d'hivernage sans inondation dans une ville au Niger, c'est qu'il faut des réformes fondamentales. Et tout à l'heure, le colonel-major l'a dit, il ne faut pas qu'on s'attende qu'on enlève d'avoir des corps sans vie pour réagir. À côté, tout récemment, dans un pays de la sous-région, vous voyez quelles sont les mesures énergiques qui ont été prises, mais suite à des décès. On aurait dû faire autrement. Donc, je pense qu'en tout cas, dans le cadre de cette coordination globale de gestion des risques et catastrophes, des textes sont en train d'être pris. Et une fois ces différents textes balisés, je pense que l'action va être aussi prise.
Monsieur le gouverneur, pour finir, quel appel à toute la population pour faire face à d'éventuels dégâts?
L'appel que je lancerai à partir de votre micro, c'est que la population accepte de nous accompagner. Que la population ne croise pas les bras pour atteindre tout de l'État. C'est elle-même qui doit se prendre en charge. Et c'est elle-même qui doit appuyer les actions de l'État pour qu'on évite les catastrophes. Donc, ce qui nous amènerait, comme Nassour l'a dit, à des sensibilisations de longue portée pour atteindre une reconversion des mentalités et également à une application saine et stricte, comme le colonel-major Bako l'appelle de tout son cœur, des textes. Parce que les textes existent, les textes sont là. Mais parce que nous sommes entre nous, nous nous connaissons, les gens ferment les yeux. Eh bien, on ouvrira les yeux qu'après avoir pris des cadavres, c'est pas bon. Il faudrait accepter tout de suite d'éviter ces cadavres. Okay. Donc c'est pour cela, comme il le disait tantôt, qu'on force ou qu'on décourage les gens à construire dans les zones inondables. Et également, que les gens apprennent à mieux se servir des quelques caniveaux, des quelques collecteurs que nous avons. Et d'aider les autorités municipales à désensabler, à curer ces caniveaux. Ils n'ont pas besoin d'attendre l'État ou bien les municipalités. Parce que c'est pour leur propre sécurité, c'est pour leur propre survie.
L'apport de tous donc est nécessaire.
Bien sûr.
Merci à vous, monsieur le gouverneur. Colonel Bako, votre mot de fin.
Après ce que le gouverneur a dit, la solidarité dans le cadre de la gestion des inondations. Ça dit que mon premier secouriste, c'est mon voisin. Voyez-vous, tout à l'heure, on a parlé d'école, on a parlé des sites. Mais il y a les familles d'accueil, il ne faut pas les oublier. Et les premiers voisins qui savent que telle personne en situation d'inondation, elle est vulnérable parce que peut-être elle a un handicap, je dois courir pour aller la secourir. Ce n'est pas la protection civile qui va quitter une caserne pour venir alors que le voisin mitoyen est là à côté.
Merci voilà. À vous. Oui, vous avez quelque chose à dire. Rapidement, on est juste...
Oui, non, c'est juste pour dire, au fait, dans le cadre de cette gestion, comme en conclusion, pour dire vraiment que le gouvernement est en train de faire de son mieux pour faire face à ces risques. Mais comme le gouverneur l'a dit, il faut que la population soit avec nous pour qu'on ait un résultat durable.
Merci. Chers auditeurs et auditrices, comme vous l'avez bien entendu, les inondations sont une réalité dans la ville de Niamey et dans toutes nos villes. Tout est mis en place pour y faire face à d'éventuelles catastrophes, comme l'a expliqué nos invités ici, et pour vraiment atteindre leurs objectifs de prévention et de gestion des catastrophes en cas d'inondation, l'accompagnement de toute la population est nécessaire. Et c'est ici que se referme le forum de ce soir. Nous étions avec le gouverneur de la région de Niamey, monsieur Issak Hassan Karanta. Merci monsieur le gouverneur d'être venu. Colonel Major Bako, directeur de la protection civile, merci à vous également d'être venu. Et Dr Nassourou, directeur des relations publiques au ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Merci à vous également. À la présentation, c'était Nafissa Adam Sefo. À bientôt pour une autre thématique sur le studio Kalangou.